Nous allons lire dans Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Et aujourd'hui, nous allons parler des blessures, le problème des blessures de l'âme, les blessures du cœur. Le Seigneur veut nous guérir afin de fonctionner normalement pour sa gloire. Hébreux 12, 15.
Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés.
Voilà, il nous est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc l'action des blessures peut nous priver de la grâce de Dieu. Et dans ce verset, on nous parle de l'amertume. L'amertume, c'est un ressentiment, une tristesse, une contrariété profonde en nous et qui peut nous détruire. C'est ça qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures de cœur. Donc on garde un ressentiment, on garde de l'amertume. Et ce verset nous dit que cette amertume peut produire des rejetons. Attention, c'est des racines. C'est parfois des choses qui sont vieilles, des choses du passé, mais ça peut produire des rejetons. Les rejetons, c'est des petites plantes qui poussent. Les rejetons, c'est des petites plantes qui poussent et qui finiront, bien sûr, par être des vrais arbres. Hein. Donc attention, on ne doit pas rejeter ça. Et ce verset nous montre que la racine d'amertume peut produire des rejetons, peut produire des plantes et qui vont finir par être des arbres et qui vont tout détruire et nous priver carrément de la grâce de Dieu. C'est vraiment des choses dangereuses. Ça nous permet de définir les blessures. C'est un ressentiment, de l'amertume que nous gardons en nous suite à un choc, suite à des souffrances qu'on a subies dans le passé, suite à des dégoûts aussi qu'on a subis dans le passé, suite à des colères qu'on a subies dans le passé, ça peut créer des blessures. Et quand ces blessures ne sont pas guéries, ça détruit la vie de beaucoup de personnes. On devient un fardeau pour la société. On devient un problème pour la société. Parce que ces blessures vont déterminer notre façon de fonctionner. Ces blessures ressemblent à une sorte de venin. Vous savez, ceux qui ont déjà vu des vidéos de serpents venimeux, quand ils piquent, quand ils te piquent, ils ne font plus rien. Quand ils te mordent, ils ne font plus rien. Ils attendent, donc ils sont conscients qu'ils t'ont inoculé un produit qui va te tuer, qui va te détruire. Donc, ils attendent que, à petit feu, tu te détruis jusqu'à mourir. C'est là qu'ils reviennent après à l'assaut pour chercher à avaler la proie. Mais quand ils piquent, ils ne font plus rien, ils attendent. Et les blessures, c'est la même chose. C'est comme une morsure de serpent. Après, le diable regarde. Il attend de voir comment tu es détruit à petit feu. Il attend de voir comment, parce qu'on va chercher à résister, mais la chose fait son effet. La délivrance ne peut venir que de Dieu. La délivrance ne peut venir que du ciel. La délivrance ne viendra pas par ta résistance. La délivrance viendra par la parole de Dieu. Et nous devons être conscients de ça. Beaucoup de gens ont pris des trajectoires liées aux blessures qu'ils ont subies dans le passé. Il y a des gens qui ont pris des trajectoires de chercher à tout prix l'argent. Pourquoi ils cherchent à tout prix l'argent ? Peut-être parce qu'ils étaient petits. Quand ils étaient petits, ils avaient des voisins riches qui se pavanaient dans leur richesse. Eux, ils étaient pauvres. Il y avait des insultes. Et ça a créé des blessures. Et la personne a décidé, moi, je serai riche à tout prix. Et c'est des gens comme ça qui finissent après par faire des contrats sataniques, de grandes fétiches, pour devenir riche, parce qu'il s'est dit, je serai riche à tout prix. Donc, ça détermine ta trajectoire. Il y a des gens qui ont été négligés quand ils étaient à l'école. On se moquait d'eux par les copains. Et ça crée des blessures. Et de telles personnes, le jour où ils trouvent une ouverture, par exemple, avec la mafia, avec le banditisme, ils se rendent compte qu'en faisant partie d'un groupe de banditisme, il peut se venger de tous ceux qui l'ont injurié. Il peut se venger en quelque sorte de l'humanité. Parce que quand on subit ces blessures-là, on finit par considérer que c'est toute l'humanité qui a tort. Et on se dit, maintenant avec les armes, je deviens un homme. Et on fait partie de la mafia. Et finalement, à 42 ans, à 43 ans, on meurt dans des vengeances de groupes mafieux. Les blessures les blessures déterminent le cheminement des gens. Parce que c'est comme une puissance forte en toi qui cherche une compensation. Une puissance négative qui cherche une compensation. On t'a trop brimé, on t'a violé, et ce dégoût-là, cette colère, cherche une compensation. Et c'est ainsi que beaucoup finissent par devenir eux-mêmes aussi des violeurs parce qu'ils ont été violés. Parce que la compensation, c'est revivre cet acte pour voir si ça me guérit peut-être. Mais ça t'enfonce. Parce qu'on cherche à s'en sortir par soi-même. Les blessures, c'est dangereux. Les blessures, c'est ça qui crée les divorces. Parce qu'on accumule. On t'a dit une phrase. Au lieu de régler par le pardon, tu accumules une phrase aujourd'hui, une phrase demain. Et ça crée des blessures. Et ces blessures-là vont chercher une compensation. La compensation, ça peut être la haine. Donc une haine qui va équilibrer ce que tu as subi. C'est comme si tu réponds à ce que tu as subi en haïssant la personne. C'est comme si ça te donnait un équilibre. Et malheureusement, ça finit mal pour tout le monde. Les blessures, c'est grave. Parce que beaucoup de chrétiens, en étant affectés, ne sont pas entrés dans le plan de Dieu. Comme on a lu dans Hébreux 12, 15, ils se sont privés de la grâce de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cherché à être guéris de leurs blessures. Ils les ont laissées, ils se disent convertis, mais ils gardent toujours vous. Comment on peut comprendre ça? Quand on discute avec eux, ils rappellent toujours les fautes du passé. Quand les gens font les enseignements de base, il y a un passage que vous lisez qui dit que celui qui rappelle sans cesse les fautes du passé divise les amis. Et ces gens-là rappellent toujours les fautes du passé, rappellent toujours les chocs, les souffrances du passé. Ils s'en rappellent et ils rappellent ça aux gens. Peut-être pas. Et ce qui est plus grave, ils ne rappellent même pas ça aux concernés, mais ils rappellent ça à d'autres personnes. Et ce qui fait que ça entretient toujours leurs blessures et ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se privent de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est que Dieu te donne un nouveau commencement. Prends, vas-y. Mais toi, tu dis, non, je reste dans mon passé. Je veux que Dieu, tu recommences mon passé. Mais Dieu ne peut pas recommencer le passé. Le passé, c'est passé. Dieu te donne un avenir. Pour que tu sois dans la joie, pour que ton passé soit complètement oublié, effacé. Mais toi, tu dis, non, c'est mon passé que tu dois changer. Mais non, prends l'avenir. Saisis l'avenir. Et c'est dans l'avenir que la gloire se manifestera. Il y a plein de gens, même dans le monde, qui ne sont pas des chrétiens, qui ont préféré saisir l'avenir. Aujourd'hui, le plus grand footballeur, Messi, c'est des gens, c'est quelqu'un qui a grandi avec des hormones de croissance. Il était trop petit. On se moquait de lui. Mais il a choisi de l'avenir. Il a choisi de bosser. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Il est moins grand que les autres, mais c'est le meilleur joueur du monde. Mais s'il s'était contenté des blessures, dire on se moque de moi, il vient pleurer près de maman, on s'est moqué de moi. Et la maman aussi encourage, ah oui, c'est vrai, mon fils. Et donc, est-ce que cet homme-là s'en serait sorti? Non. Il a préféré le boulot. Il a préféré travailler, malgré sa petite taille. Il n'a pas regardé à ce que les gens pouvaient dire. Il a choisi l'avenir. Il a choisi le travail. Et ce qui est plus grave, c'est les chrétiens qui ont toute une carrière. Nous allons lire les textes. Hébreux 12 dit, devant la carrière que Dieu nous a ouverte, saisissons cette carrière. On lira ça. Donc, il y a plusieurs sortes de blessures. Il y a des blessures qui viennent par le tort qu'on a subi. Quelqu'un d'autre nous fait du mal. Et souvent, c'est un tort immense. Hein, les vraies blessures, c'est des viols, des injustices répétées par la belle-mère peut-être, par des parents d'adoption. Il y a des gens qui ont grandi orphelins, ils ont traîné de foyer en foyer ou bien de maison en maison, ou bien ils ont été chez un oncle, chez une tante, et ils ont subi des blessures. Ces blessures-là les ont brisées. C'est des torts qu'on subit de la part des gens. Donc ça vient de l'extérieur sur nous. Il y en a de toutes sortes. Il y a des gens qui ont été dans des pays dictatoriaux. Ils ont subi des torts. Ça existe des blessures de ce genre-là. Il y a des blessures dues aux fautes que nous-mêmes nous avons commises. Autrefois, dans le passé, tu as fait des bêtises graves. Tu as tué peut-être quelqu'un. Tu as été dans des actes d'immoralité prononcés. Et c'est resté. Et donc, quand tu reviens à la raison, quand tu viens à la raison, tu te dis, mais qu'ai-je fait dans mon passé? Et tu te condamnes toi-même. Donc, c'est une blessure infligée par tes propres actes. Et dans ta condamnation, tu préfères le dépérissement au lieu de chercher la délivrance. Tu restes dans les blessures, tu restes dans le choc. Ça existe aussi, ce genre de blessure. Il y a des gens, même, qui, après, se sentent tellement sales qu'ils préfèrent rester sales parce qu'ils se disent « ce que j'ai fait était trop grave ». Il y a des blessures aussi dues à ce qu'on a vu. On a vu son père battre sa mère. Du coup, ces blessures-là produisent un refus de toute autorité. On a vu le mauvais comportement des professeurs, le mauvais comportement des adultes. On a été blessé. Du coup, ces blessures-là engendrent un fonctionnement anormal. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blessures engendrent un fonctionnement anormal. Il y a un dérèglement dans notre fonctionnement parce qu'on a été blessé, parce qu'on n'a pas été guéri. Un dérèglement. Et c'est une réalité. C'est ce qui a produit des gens comme les Hitler. Des gens qui ont été blessés et ils ont voulu se venger. C'est ça la compensation, parce que les blessures appellent à une compensation. Quelqu'un veut compenser le traumatisme qu'il a subi, les souffrances qu'il a connues, les manques qu'il a connus. Il veut compenser. Et c'est ça qui produit des gangsters, ça produit des dictateurs, ça produit la dépression, ça produit toutes sortes de maux, ça dérègle la vie d'une personne. C'est ça la réalité, ça produit des acteurs de pornographie, ça produit des prostituées parce que c'est des gens, la plupart qui ont été blessés quand ils étaient enfants. On a abusé d'eux, alors ils se sont sentis sales, alors ils préféraient se vautrer dans la saleté, consciemment maintenant. Alors qu'avant c'était des erreurs, parfois, mais là, ils choisissent. Donc les blessures peuvent venir comme ça, des choses qu'on a vues, on a assisté à des tortures, on a assisté à des choses, et ça nous a traumatisés, ça nous a blessés. Et il y a les blessures aussi qui peuvent venir des défauts naturels. Des défauts naturels. Tu n'as pas beaucoup de cheveux. Ça devient un problème. Ça te blesse. Tu as l'habitude d'avoir que à peine 5 sur 10 à l'école, ça te blesse. Ou bien tu regardes quand toi, on connaît comment Michael Jackson cherchait à devenir blanc. Donc, tu regardes ta peau, ça ne te plaît pas. Donc, tu te blesses comme ça tout seul. Moi, j'appelle ça des blessures injustes. Ce n'est pas des vraies blessures. Ça ne vient pas d'un mal vraiment direct, mais c'est notre fausse conception qui crée ces blessures-là. Défaut naturel, tu es né infirme et tu te crées toi-même ça comme blessure. On ne néglige pas le fait que les gens peuvent aussi parler, mais toi-même aussi, tu te dis que ce n'est pas normal et ça devient une blessure pour toi. Il y a les inégalités aussi naturelles qui sont de blessures qu'on peut soi-même se créer. Quand tu étais jeune, quand tu te promenais avec ton meilleur ami, c'est ta meilleure amie que les garçons toujours suivaient. Et ça peut te créer une blessure inutile pour dire pourquoi je suis moche. C'est toi-même qui crées ça. Au fait, tu n'as pas été attaqué. Personne ne t'a fait du mal. C'est toi-même qui conclut qu'il y a un problème et tu commences à te créer des blessures. Ton meilleur ami a toujours été premier de classe et toi, tu as été cinquième. Et ce n'est pas mauvais. Mais en fonction de ce que tu vois chez ton meilleur ami, tu t'es créé toi-même une blessure. C'est des inégalités naturelles, on en fait une blessure. Ça existe aussi. Des gens qui se blessent tout seuls par inégalité naturelle. Et c'est injuste, c'est pas bon. Parce que ces inégalités naturelles font que nous faisons tout un monde. Font que le monde peut vivre. Parce que si tout est pareil, on ne peut plus vivre. Imaginez qu'il n'y ait plus la nuit. Comment on va dormir? Comment on va reconnaître? Comment notre corps va se reposer? Il faut qu'il y ait le jour et la nuit. Il faut qu'il y ait des inégalités puisque c'est un monde inégal. Donc s'il n'y a pas d'inégalité parmi nous, on ne pourra pas composer quelque chose. Pour faire un aimant, il faut qu'il y ait un pôle sud dans le aimant, un pôle nord. Sinon, ce n'est plus un aimant. Les inégalités contribuent à ce que le monde existe et vive. Et parfois, on peut se blesser tout seul par les inégalités naturelles. Considérer que l'autre est mieux loti, moi, je suis né avec peu. Non! On ne doit pas se laisser blesser bêtement comme ça. Chaque humain a un rôle à jouer sur la terre. Il faut chercher ton rôle. Chaque humain a sa femme, chaque homme a sa femme, chaque femme a son homme. On ne doit pas avoir une taille, une façon d'être qui doivent plaire à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'à choisir une seule. Donc, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Mais quand tu... Et Dieu nous dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, ça veut dire qu'il y a une femme pour un homme. Si tu l'as trouvée, c'est bon. Mais on peut cultiver des blessures comme ça, comme si on t'appelle à plaire à tous les hommes. Non, pourquoi tu veux plaire à tous les hommes? Du moment que tu as plu à un seul, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on peut se créer des blessures tout seul par des inégalités naturelles. Et je peux vous dire que là, c'est sans fin. Parce qu'il y aura toujours des inégalités. Même si tu deviens millionnaire, il y aura toujours quelqu'un qui sera milliardaire. Tu deviens milliardaire, il y aura quelqu'un qui sera multimilliardaire. Tu deviens multimilliardaire, il y aura quelqu'un qui sera non seulement multimilliardaire, mais grand footballeur. Donc, il aura plus de succès que toi. Donc, il y aura toujours un problème. Donc, ça ne sert à rien de te créer toi-même un problème. Accepte ce que Dieu t'a donné et fonctionne avec cela. Et pour clôturer sur l'origine des blessures, je veux parler des fausses blessures. Encore, là, je parlais des fausses blessures dues aux défauts naturels et aux inégalités naturelles, mais il y a aussi les fausses blessures dues au fait que on est orgueilleux. On t'a fait une petite remarque. Toi, tu gonfles ça. Donc, au fait, c'est quelque chose de simple, mais puisque tu as été contrarié, tu en fais une blessure. Donc, alors que ce n'est pas une blessure, c'est juste une contrariété. Donc, quand même, quand on dit blessure, on suppose quand même un grand choc, on suppose un grand mal. Mais qu'est-ce qu'on remarque au milieu de nous? Des malentendus, des erreurs de bien-aimés, de frères et sœurs. Ça devient une blessure pour l'autre. Oh, mais quand même, tu entends ça, tu dis, mais je rêve ou comment? Au lieu juste de pardonner, ça devient une blessure. Ça, j'appelle ça des fausses blessures. On peut être là. On fait 5 réunions de prière. Et pendant les 5 réunions de prière, souvent on dit à la fin, « Oh, frère Intel, tu peux clôturer ?» Ou bien, « Avant telle chose, sœur, est-ce que tu peux prier ?» Maintenant, on a fait 5 réunions de prière. Toi, on ne t'a pas sollicité. Ça devient une blessure. Moi, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois le pasteur, lui, ne me sollicite pas. Donc, la personne sait créer sa propre blessure. Et ça fonctionne, hein? Donc ça veut dire que sa vie est détruite à cause de ça. C'est ce que j'appelle des fausses blessures. Ça peut dire que ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est toi-même qui déduis que quelque chose est grave par ta conception. C'est de fausses blessures. Ou dans une maison, une maman a acheté des choses pour ton frère et ta sœur. Tu considères qu'on s'occupe de lui plus que de toi. Mais nous, nous connaissons ce qu'une maman. Une maman ne peut pas faire de favoritisme. Un parent ne peut pas faire du favoritisme. Mais c'est toi qui vois mal les choses. Et tu te crées toi-même une blessure. Vous savez, l'homme est égoïste. Quand on lui fait du bien, il ne compte pas. Mais il compte ce qu'on fait pour l'autre. Peut-être s'il comptait, il verrait qu'on a fait plus à lui qu'à l'autre. Même quand, maintenant, quand on fait à lui, il ne compte pas, il considère, mais c'est mon droit, je suis son enfant, et puis il ne compte pas. Mais dès qu'on fait à l'autre, il oublie que l'autre aussi, c'est un enfant. Ça, c'est, j'appelle ça des fausses blessures. Nous devons arrêter avec cela. Nous devons arrêter. Le Seigneur nous appelle à nous ressaisir. Nous devons... Beaucoup de gens ont pris des directions, des mauvaises directions. Ils ont laissé l'amertume diriger leur vie. Tu considères qu'on t'a déconsidéré, alors tu cherches par toi-même le pouvoir. Tu cherches par toi-même la gloire, au lieu de laisser Dieu faire. Et puis, au lieu de vivre heureux avec ce que Dieu te donne, tu commences à vivre en fonction de ce que les gens ont dit sur toi. Donc, tu es téléguidé par les gens. Ce n'est pas normal. On devait vivre la liberté avec Dieu. Mais quand on commence à vivre parce que les gens ont dit que je ne valais rien, je vais leur prouver. Donc, c'est que nos blessures nous pilotent, nous donnent une mauvaise direction. C'est comme ça que beaucoup ont touché à la magie. C'est comme ça que beaucoup, ils se sont eux-mêmes autoproclamés prophètes, ils se sont autoproclamés apôtres parce qu'ils ont des blessures. Ils veulent prouver au monde qu'ils sont quelque chose. Il y a des gens qui ont écouté des fausses prophéties sur eux. Je viens d'un pays où, quand tu expliques un verset, automatiquement, on t'appelle pasteur. Donc, il y avait des gens qui étaient là. Tu viens, il y avait un verset qui est sorti. Tu donnes une explication. Quand ça finit l'explication, « Oh, frère, tu es un pasteur. Hein? » Alors, maintenant, quand tu entends ça, tu reviens à l'église, personne ne te calcule. Tu es toujours dans l'équipe de balayage, tu dis, oh, Mais comment à l'église on ne me remarque pas partout, là j'interviens. Donc tu t'es blessé tout seul. C'est-à-dire que tout seul. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait des gens, il était le champion de son quartier. Donc dans ce quartier-là, on dit, ah, le petit là qui habite dans la maison numéro 10, là, oh, il est très intelligent. Mais oui, mais très intelligent dans ton quartier. Parce que quand on se retrouve tous maintenant à l'université, c'est les intelligents de tous les quartiers qui se retrouvent. Et toi, tu retrouves le dernier maintenant. Et tu te caches sous la terre. Parce que là, maintenant, c'est les intelligents de tous les quartiers. Donc, tu te crées toi-même ta blessure. Donc, il faut comprendre. Et tu vas aller quelque part. Moi, je voyageais avec des frères. Dès qu'on a vu le frère Boris avec la barbe, on l'a appelé pasteur du coup. Oh, pasteur. Boris a dit, mais non, je ne suis pas pasteur. Juste la barbe, hein. Maintenant, quand tu entends ça, le frère David avait donné une explication à quelqu'un. Dès qu'il a donné l'explication, au moment de se dire au revoir, on lui dit, bon, pasteur. On dit, mais non, mais je ne suis pas pasteur. Juste parce qu'il a donné une explication d'un verset biblique. Alors, quand les gens entendent comme ça, après, il vient à l'église, on ne le calcule pas. Oh, mais comment, donc le pasteur est jaloux, il voit que j'ai l'onction. Et donc, la personne s'est créée sa propre blessure. Fausse blessure. Ce n'est pas un mal qu'on te fait, mais c'est toi-même qui te crée de fausses blessures. Parce que tu penses que l'autre te veut du mal et tu te blesses tout seul. Sortons de cela, bien-aimé. Et ça crée une amertume. Cette amertume-là détruit beaucoup. Et nous voyons que le Seigneur, quand il est venu, il a dit une phrase très importante qu'on va lire dans Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19.
Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Voilà ce que le Seigneur dit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il commence par ça. Hein? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens blessés. Le Seigneur connaît l'homme. Il sait que nous sommes, les humains sont remplis de blessures, de chocs, de traumatismes du cœur et qui vont empêcher leur fonctionnement normal. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12, 15. Attention, vous allez vous priver de la grâce de Dieu à cause des blessures, à cause de ces chocs. Laissez-vous sauver, laissez-vous traiter par le Seigneur. Les chocs peuvent détruire, les blessures peuvent détruire la vie des gens. Leur emmener dans une mauvaise direction à cause des blessures. À cause des blessures, allez, tu t'inscris dans le karaté. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Après le karaté, c'est les armes. Après, un jour, tu vas tuer quelqu'un et tu fais 40 ans de prison. Voilà là où les blessures t'ont amené. Tu as voulu réagir. Tu as voulu prouver. Voilà là où tu finis. Attention, bien-aimé. Le Seigneur est venu pour ça. Il est venu guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance parce que les blessures t'enferment dans une prison. Tu es comme dans une prison où tu t'es fait ton monde, le monde de souffrance. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est devenu ton monde. C'est une prison. Tu n'es pas libre. Et le Seigneur est venu te donner la liberté. Il est venu nous donner, proclamer aux captifs la délivrance. Renvoyer libres les opprimés. Ceux qui se sentent opprimés. Mais Jésus dit qu'il est venu pour ça. Donc saisissons sa main. Saisissons sa main. Il est venu renvoyer libres les opprimés. Mais on veut rester dans le passé. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, mais tu seras privé de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur est clair. Il ne peut pas travailler avec les gens qui sont dans l'amertume, qui sont dans la colère, qui sont dans la haine. Il ne peut pas. Le Seigneur est le Seigneur de paix. On va lire, à un moment donné, à la fin, on lira Hébreux 12, 1 à 15. Vous verrez qu'il y a un verset dans 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous. » Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur travaille avec les gens de paix. Les gens qui ont de l'amertume, de la haine, de la colère. Les victimes, il ne travaille pas avec eux. Parce que c'est lui-même qui est la grande victime. La grande victime, c'est Jésus. Il a été crucifié à cause des péchés que lui n'avait pas commis. Il a été crucifié à la croix. Il a en prenant nos péchés sur lui. Maintenant, quand il te voit garder de la haine, de la colère, il dit, mais est-ce que toi, tu as souffert comme moi? N'est-ce pas que toi aussi, tu as péché? Regarde bien dans ta vie. Oui, tu as de la colère pour ce qu'on t'a fait, mais toi aussi, tu as fait des choses aux gens. Si ces gens-là doivent avoir aussi de la colère pour toi, on va finir où? Et le Seigneur dit, regarde-moi, j'ai été crucifié pour toi, pour tes péchés, alors que moi, j'étais innocent. J'ai tout bien fait. Pourquoi une telle attitude, dit le Seigneur? Et il ne peut pas travailler. On se prive de la grâce de Dieu. Revenons à la grâce du Seigneur. Nous allons lire aussi Éphésiens 4, 30 à 32.
Éphésiens chapitre 4. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Amen. Il a dit, il ne faut pas qu'il y ait de l'amertume. L'amertume, c'est ça, l'entretien, tu entretiens ta blessure, c'est ça l'amertume. Tu es dans l'amertume. Il ne faut pas, s'il y a un problème, il faut régler. Il ne faut pas qu'il y ait l'amertume. Il faut régler avec le Seigneur. Même si on ne peut pas régler avec l'autre, mais réglons au moins la chose avec le Seigneur. Et nous lisons encore le psaume 103, 1 à 3. Psaume 103, 1 à 3.
Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
Amen. Celui qui guérit toutes tes maladies, mon âme, il guérit les maladies de l'âme. Nous devons nous confier au Seigneur. On n'a pas le droit de garder nos blessures parce que la solution est là. On n'a pas le droit de garder l'amertume parce que Dieu est prêt à nous enlever tout cela. On n'a pas le droit de ressasser le passé. Toujours rappeler les mêmes souffrances du passé, les mêmes torts, les mêmes blessures. Ce n'est pas normal. Alors que celui qui est venu guérir les cœurs brisés a été crucifié à la croix pour nous. Les choses doivent changer. Le Seigneur veut nous entraîner dans son plan. Le Seigneur veut glorifier son nom à travers nous. Mais avec les blessures, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il nous met sa gloire, on va se venger. Les blessures appellent toujours la compensation. Toujours la compensation. Souvenons-nous de ça. Quand je suis blessé, je vais penser toujours à une compensation. Ça peut être la colère. Ça peut être la haine. L'isolement, donc il y a quelqu'un qui s'isole. parce que son isolation lui donne la sensation d'être juste, d'être bien. Mais il s'isole, il se tue, parce que quand tu t'isoles, tu t'es tué. La recherche de gloire, les blessures vont te pousser à chercher une gloire pour prouver quelque chose. Un bon salaire pour prouver à quelqu'un qui se croyait riche autrefois, qui t'a brimé. Tu veux maintenant un bon salaire. Dès que tu as ce salaire, on ne te reconnaît plus. C'est parce que les blessures étaient en train de fonctionner. Combien de gens, on ne les a plus reconnus quand ils ont été bénis? Dès qu'ils ont été bénis, on ne les reconnaît plus. Parce que dès qu'ils sont bénis, puisque les blessures n'étaient pas finies, la pensée qu'ils ont, c'est de montrer, c'est de vivre maintenant, de prouver qu'ils ont quelque chose. Parce que les blessures n'avaient pas été guéries. Mais quelqu'un, on voit comme quelqu'un comme Paul, il arrive quelque part, il prêche au gouverneur. Le gouverneur, c'est comme un roi dans la ville. Le gouverneur se convertit. 2 jours après, Paul quitte cette ville. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de blessures. Il n'avait pas besoin de l'argent du gouverneur pour prouver que Dieu était avec lui. Il n'avait pas besoin de l'argent du gouverneur pour être heureux. Il avait besoin que de Dieu. Mais les gens qui ont des blessures, dès qu'ils trouvent une occasion de s'enrichir, une occasion où ils ont une certaine stabilité matérielle, financière, on ne les reconnaît plus. Le langage change. Parce que les blessures étaient encore là. Les blessures appellent à une sorte de vengeance. C'est la compensation. Souvenons-nous de cela. On va rechercher à être comblé sur la terre pour compenser les blessures. Parce qu'on ne sait pas laisser guérir. Ce n'est pas bon. Acceptons la main tendue du Seigneur. Comment sortir de ces blessures, bien-aimés, qui sont si destructrices? On a vu Saül, comment il s'est détruit tout seul. Juste parce qu'il a entendu que les femmes ont dit Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Aïe! Ça lui a créé une blessure contre David. Et finalement, il a tout fait pour tuer David. On a vu qu'à un moment donné, il a reconnu que David était un béni de Dieu. Il a béni David. Il a dit de bonnes choses sur David. Mais juste après avoir dit de bonnes choses sur David, il a cherché encore à le tuer parce que les blessures continuaient à fonctionner. Il suffisait que Saül se dise, David a son appel, moi j'ai mon appel. Il allait être guéri. Mais il continuait à ne pas accepter qu'on ait dit, David a tué 10 000, Saül en a tué que 1000, en a tué 1000. Mais quand les femmes disaient ça, les femmes ne disaient même pas ça dans un mauvais sens. Elles ne disaient pas pour comparer les deux. Elles disaient par rapport vraiment au travail que David avait fait ce jour-là dans la guerre. Elles ne disaient pas pour dire que David est meilleur que Saül. Ah non, ce jour-là, David a fait des exploits. On parle quand même de la personne qui a le plus travaillé, telles que les choses se sont passées. Un point, c'est tout. Mais lui, il a pris ça comme un rabaissement. Du coup, malgré le fait que lui-même reconnaissait que David avait un bon cœur, que David était une bonne personne, il voulait quand même le tuer. Et c'est ce qu'on retrouve parfois dans notre entourage, des gens qui reconnaissent qu'on est droit, qu'on est bon, mais après, ils vont nous descendre quand même. Ils vont nous critiquer parce qu'ils ont des blessures. Peut-être qu'un jour, le pasteur a prêché, il a dit quelque chose, lui, il a cru qu'on l'a visé. Oh, le pasteur n'est même pas au courant de l'affaire. Et des blessures comme ça, les gens retiennent. Et on ne comprend pas, ils sont là, mais le jour où ils entendent seulement que le pasteur a fait telle erreur, yeah! C'est la fête, donc là, ils se transforment en Ponce Pilate. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé des blessures. J'ai l'impression que le pasteur préfère un tel plus que moi. Et ils ont gardé ce genre de choses. Mais ils sont là parce qu'ils reconnaissent que la personne prêche la vérité. C'est vraiment un appelé de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu se laisser guérir des blessures. Et du coup, le jour où on va lui raconter même une fausse nouvelle, il n'a même pas le temps de vérifier. Les blessures viennent en force. Ah, voilà. Lui, il croit qu'il est dans la vérité. Voilà qu'on l'a attrapé lui aussi. Voilà. C'est ça, les blessures. Ça finit par exploser. Laissons-nous guérir par le Seigneur. Comment être guéri maintenant? Le temps est passé. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je vais tourner toujours autour de ça, finalement. C'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. Donc, c'est la première des choses. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vraiment quelqu'un est converti, il est guéri. Donc, disons-nous que si on traîne encore des blessures, peut-être notre conversion n'est pas réelle. Elle est tronquée. On a besoin d'être vraiment totalement pris en charge par Dieu. Totalement mourir à soi et recevoir la résurrection de Christ. Et la vie va devenir nouvelle pour nous. On ne va pas s'intéresser à être applaudi, à être acclamé. On ne va pas s'intéresser à être beau, à être fort. C'est que, parce que Jésus nous comble. Et le passé ne nous dit rien parce qu'on est maintenant riche en Christ. L'apôtre Paul dit, nous n'avons rien, mais nous avons tout parce que tout appartient à notre papa. Vous imaginez, l'apôtre Paul était en prison, les gens se moquaient de lui. Quand je dis les gens se moquaient de lui, les autres chrétiens, je ne parle pas des païens, les autres prédicateurs, les autres chrétiens disaient, mais lui, dit, lui, s'il est vraiment dans la vérité, il se retrouve en prison. L'apôtre Paul disait, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ces gens-là prêchent quand même Christ. L'apôtre Paul n'a pas dit, je suis meilleur qu'eux. Regardez mes œuvres. Regardez comment Dieu m'utilise. Non, il a dit, c'est pas grave. Ces gens-là qui me critiquent, je suis content d'eux parce qu'ils prêchent Jésus quand même. Vous voyez, quand quelqu'un est béni, il est heureux. Même quand tu le critiques, c'est comme si quelqu'un vous apprenez à un millionnaire qu'on a volé ses chaussettes. Ça ne va rien lui faire. Voilà quelqu'un qui est converti, il est comme ça. Donc, il est milliardaire dans le Seigneur. Il est bien. Donc, quand on lui apprend qu'il a été critiqué, ça ne lui fait rien parce que lui, il est bien. Il est bien. Mais quelqu'un qui n'est pas totalement converti, aïe, on m'a diminué. C'est le problème de conversion. La personne n'est pas comblée par le Seigneur. Quand on est comblé par le Seigneur, on est bien. Nouvelle créature. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte de se convertir. Même quand on a un titre de pasteur, je ne sais quoi. Maurice Ray n'a pas eu honte. Il était pasteur, cela faisait 3 ans. Vous connaissez cette histoire, je vous la donne toujours. C'est très important parce que j'estime que le plus important pour un enfant de Dieu, c'est la conversion. Il était pasteur depuis 3 ans, avec un diplôme de théologie. Mais il n'était pas heureux. Il a fait venir un autre pasteur, un aîné. Il a discuté avec lui. Mais le pasteur aîné lui a dit, mais je comprends ton problème. Tu n'es pas converti. Il dit, mais quoi? Moi, je suis pasteur. J'ai fait la théologie. Je dirige l'église depuis 3 ans. Il dit, oui, mais tu n'es pas converti parce que tu n'as pas abandonné ta vie entièrement entre les mains du Seigneur. Tu ne sais pas c'est quoi la conversion. Et le pasteur lui explique. La conversion, c'est quelqu'un qui dit, ma vie n'existe plus. Maintenant, c'est la vie de Christ qui doit vivre en moi. Ah bon? Oui, c'est ça. Et bien, Maurice Ray dit, ben moi, je veux être converti. Moi, j'aime Jésus. Parce qu'on peut aimer Jésus et ne pas être converti. Mais moi, je veux être converti. Quand on dit aimer Jésus, donc avoir de la sympathie pour lui, parce que le véritable amour va aller avec la conversion. Mais je veux me convertir. Eh bien, ils font la prière avec le pasteur, et quand il se convertit, sa vie change. Le soir même, il ouvre la Bible, il tombe sur Éphésiens 4, 11. C'est moi qui appelle les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, pour conduire mon peuple. Et c'est là qu'il reçoit son appel. Et quand il reçoit ainsi son appel, il va à l'évangélisation. Il arrive à la gare de midi, il prêche la parole, il y avait un paralytique, il lui lève ton nom de Jésus-Christ. Le paralytique se lève. Dieu accompagne son ministère. Parce que maintenant la conversion est arrivée. Les blessures sont parties. D'ailleurs, ça fait partie des gens qui étaient un peu spécialistes de toutes ces histoires de blessures, de l'âme. Parce que lui-même, il a expérimenté ça. Comment Jésus peut guérir un cœur? Nous devons nous convertir. Dire, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Totalement. Que je sois en prison, que je sois moqué, que je sois diminué, c'est toi qui m'intéresses plus que tout. Quand le jeune homme riche a dit à Jésus, je vais te suivre. Le Seigneur a dit, mais je vais aller au royaume dans le royaume des cieux, applique la parole. Le monsieur a dit, oui, j'applique tout. Je lui ai dit, ah bon, il y a un verset, il y a une parole que je te présente particulièrement. Vends tous tes biens et suis-moi. Au fait, cette parole de vendre tous ses biens et suivre Jésus, ça va avec la parole, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Lui disait qu'il appliquait toute la loi. Donc on lui a sorti un extrait de la loi. Vends tous tes biens sous une autre forme. On ne lui a pas sorti sous la forme « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Sous cette forme-là, tout le monde va dire « Moi, j'aime le Seigneur. » Mais on lui a sorti sous une autre forme. « Vends tous tes biens et suis-moi. » Mais c'est le même commandement. Si vraiment le Seigneur, tu tiens à lui autant, tu dois être prêt à te priver de tout pour être dans sa volonté, pour être dans son amour. Le monsieur, il est dit, il s'en est retourné triste. Vous voyez la différence entre la religion et la conversion. Mais à cause de la conversion, les gens comme Paul ont été privés de tout. Ils ont connu que la prison. Peu de temps en liberté. Il a fini la tête coupée, historiquement. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais historiquement, c'est ce qu'on nous a rapporté, on nous rapporte. À cause de la conversion, les gens comme Pierre ont obéi à des ordres rationnellement bêtes. Ils ont fait toute la nuit, ils n'ont trouvé aucun poisson. Jésus lui dit, jette le filet. C'est comme si un paysan voit un mathématicien, il lui dit, je vais te résoudre le problème que tu n'arrives pas à résoudre. Et l'apôtre Pierre obéit à quelqu'un qui n'était pas un pêcheur de poissons. Lui, il était un professionnel. Il n'a pas trouvé. Et le profane dans la pêche vient lui dire, jette le filet. Il a dit, Seigneur, quand même, moi je suis professionnel. On a fait toute la nuit, on n'a pas trouvé. Mais comme tu me donnes l'ordre, j'obéis à ton ordre. Ça, c'est la conversion. Quelqu'un qui a saisi que Dieu, dans son ordre, il y a ma bénédiction. C'est cela. Dire conversion comme ça, tout le monde dit, ah, j'ai accepté Christ. Mais oui, mais il faut poser la question autrement. Est-ce que tu es prêt à tout vendre et suivre le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à être dans la dernière place quand tu es avec les enfants de Dieu? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton travail pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te laisser gifler et à ne pas répondre? C'est ça la véritable conversion. Dieu nous appelle à la conversion. À vivre que pour lui et de lui. Est-ce que tu es prêt à vivre par grâce et non pas par les œuvres? C'est ça la conversion. Dépendre de Dieu, attendre la délivrance qui vient d'en haut, pas que ce qu'on se fabrique tout seul. C'est ça la conversion. C'est tout cela. Si on se convertit réellement, les blessures vont s'en aller. Mais toutefois, comme il y a des cas qui continuent, des choses qui continuent, nous passons à la deuxième étape. Adopter le principe du pardon continuel. C'est-à-dire, à chaque fois que les blessures reviennent, tu pardonnes. Mais les gens vont dire, mais j'avais déjà pardonné, mais oui, mais puisque si tu es toujours blessé, tu pardonnes encore. Donc nous allons lire dans Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Et le pardon a bloqué beaucoup de personnes et les a empêchés d'entrer dans la gloire de Dieu. Parce que le plan de Dieu pourrait s'est bloqué. Dieu ne peut pas avancer avec eux.
Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Voilà. Donc si maintenant Dieu ne te pardonne pas, ta vie est bloquée. Bien-aimés, redoutons plus que tout la colère de Dieu. Tous nos problèmes entre nous, c'est rien du tout par rapport à la colère de Dieu. Et c'est ce que Élie avait dit à ses enfants. Élie dit, mes enfants, quand ses enfants profanaient les sacrifices qu'on amenait au Seigneur, il a dit, mes enfants, quand on a des problèmes entre hommes, Dieu peut intervenir. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Pardonnons, bien-aimés. Adoptons ce principe. Pardonnons jusqu'à ce que ça ne revienne plus. Quand ça revient, oh Seigneur, je pardonne, puisque c'est revenu encore. Il y a des gens qui disent, ça, on pardonne, mais on n'oublie pas, ce n'est pas un bon langage. Ça. Ça montre que la personne ne veut pas vraiment pardonner. Si on pardonne, on peut oublier. Puisqu'il est écrit que Dieu oublie nos péchés. Il les oublie. Dans le psaume 103, verset 12, on en parle. Il les éloigne. Dans Hébreux aussi, on en parle. On dit qu'il les oublie. Donc nous aussi, si on a accédé, on a vraiment pardonné, même si la mémoire peut nous rappeler, ça sera comme insensible. Un souvenir de quelque chose de sec. Ça n'a plus aucun impact sur nous. C'est ça le vrai pardon. Alors, comme nous ne sommes pas parfaits, quand ce genre de blessure revient, peut-être ce que ton mari a fait il y a 10 ans, il y a 12 ans, ou ta femme il y a 4 ans, il y a 5 ans, quand ça revient, tu dis, bon, je pensais que c'était parti, mais je pardonne à nouveau encore. Au lieu de philosopher sur ton ancien pardon, pardonne seulement à nouveau. C'est tout. Ainsi, Dieu aussi te libérera. Adoptons le principe du pardon continuel, toujours pardonner aux gens. C'est comme ça qu'on n'aura plus d'amertume. On sera tranquille. Pas de blessure, pas d'amertume. Une autre solution, une autre voie de solution, nous allons lire dans Hébreux 12, au verset. Commençons même le premier jusqu'au troisième verset, je crois. Hébreux 12.
Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
Voilà, je m'arrête un peu là. Rejetons tout fardeau. Hein, nous sommes environnés, Paul dans Hébreux 11, il cite tous les gens qui nous ont précédés, des gens qui ont été grands avec le Seigneur, les Élie, les Élisée, les Moïse, les Jacob. Il dit, mais on a tous ces exemples-là, on est environnés de tous ces exemples-là. Alors pourquoi garder des fardeaux dans nos vies et qui nous empêchent de les imiter, de faire des exploits comme eux? Arrêtons avec ces fardeaux. Les blessures, c'est des fardeaux que tu portes, c'est des chaînes avec des boulets. Tu marches, tu avances, mais tu es lourd dans ta marche parce qu'il y a les blessures, c'est des fardeaux. Arrêtons avec ça de dire, un tel ne m'aime pas, un tel ne me parle pas, il ne m'invite pas chez lui. Arrêtons avec ces choses-là. Avançons, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, ancien.
Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte.
Amen. Courons dans la carrière qui nous est offerte. Dieu nous donne une carrière, c'est-à-dire un projet. Comment être guéri des blessures? C'est entrer dans ce projet-là. En fonctionnant pour Dieu, notre mémoire va être renouvelée par les choses de Dieu. Et les choses anciennes vont partir. Beaucoup ne sont pas libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Ils ne fonctionnent pas pour Dieu. Ils n'agissent pas pour le Seigneur. C'est pourquoi ils ne sont pas dans une bénédiction qui peut effacer les blessures du passé. Parce que la gloire de Dieu enlève les choses du passé. La gloire de Dieu, c'est extraordinaire. Comme Khalid, l'Égyptien, qui était terroriste, quand il a lu la Bible, il a connu l'amour du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a parlé. À 6 heures du matin, il s'est réveillé. Vers 6 heures du matin, donc à l'aurore, il se réveille. Il sort dans les rues, il commence à embrasser tout le monde. Lui qui était un terroriste. Vous savez, les terroristes, on avait peur de lui même par sa maman dans sa maison. Donc, sa maman, ses sœurs avaient peur de lui. Dès que l'amour de Dieu l'a saisi, il entre dans la chambre de sa mère, il s'agenouille devant sa mère, il dit « Maman, pardon ». Vous voyez comment quand Dieu guérit, parce que tous ces terroristes-là, c'est des blessés, c'est des déçus de la société, des blessés, des gens qui veulent se venger par la violence, en montrant une certaine religiosité exacerbée. En réalité, ils ont des blessures, ils ont des vides d'âme, ils veulent combler ça par une religion, religiosité trop appuyé et montrer que j'existe. Maintenant, quand ils reçoivent maintenant la véritable vie en Christ, ils entrent dans la carrière que Dieu leur propose. La vie change. Halid a commencé à embrasser tout le monde dans la rue parce qu'il a saisi l'amour du Seigneur. Il entre maintenant dans la carrière que le Seigneur lui propose. Entrons dans le projet de Dieu. Tant qu'on n'entre pas dans le projet de Dieu, on est privé de beaucoup de choses et ça va toujours nous rappeler les blessures anciennes. Parce qu'on est dans la privation. Mais quand on est comblé par le Seigneur, parce qu'on est dans son projet, on est dans son plan, les choses changent. Dieu nous a donné à nous tous quelque chose. En un temps donné, après parfois ça augmente, peut-être Dieu t'a donné la louange comme projet. Peut-être Dieu t'a donné le son comme projet. Dieu t'a donné la propreté des choses de Dieu comme projet. Dieu t'a donné des... Et tant que tu n'es pas dans ces choses-là, tu ne ressentiras pas cette gloire-là. Il y aura une privation. Je me souviens, on était en Guyane, on avait été invité quelque part. Je redoutais un peu cet endroit-là parce que je supposais qu'il y aura des opposants à nous, des opposants radicaux à nous, qui seraient aussi invités. Et je me disais, l'atmosphère va être quoi? Effectivement, quand on arrive dans ce lieu-là, l'atmosphère est mitigée parce qu'il y avait quelques têtes qui étaient là, se dire, ah ben, lui, quand je veux dire, il y a des gens, quand ils s'opposent à toi, même quand tu dis Alléluia, ce n'est pas bon. Tu dis Jésus, il dit, tu n'as pas mis la majuscule dans ta phrase, alors que quand on parle, il n'y a pas de majuscule. Donc, c'est des gens qui, alors quand ils étaient là, c'était froid. Bien-aimé, quand on a commencé à louer le Seigneur, hein, pendant 30 minutes, ça a été le combat, mais nous, on est entrés dans notre adoration sans tenir compte de ça. Mais à la 45e minute, les froids ont commencé aussi à adorer, ont commencé à louer. Satan était vaincu, l'animosité était vaincue. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je vous ai donné la louange pour gagner, triompher avec ça. Mais nous, on voulait quoi? Nous, on veut quoi? On veut que le Seigneur règle le problème. Non, mais le Seigneur dit, moi, je t'ai donné tel don. C'est ça qui va régler. Fonctionne dans la carrière que Dieu t'a proposée. On apprend qu'il y a une réunion de prière à tel endroit. Tu peux y aller, mais tu restes chez toi en train de regarder la télé. Après, tu ne comprends pas que la nuit s'est mal passée. Mais j'ai vu tel mauvais esprit m'attaquer. Mais oui, mais si tu étais parti à cette réunion-là, tu as recevoir la gloire de Dieu. L'esprit allait sentir l'odeur de la gloire de Dieu. Il ne se serait même pas approché. Courons. Dieu nous propose des choses, la carrière. Il nous propose des choses. Quand on entre dedans, sa gloire est là. Et les blessures s'en vont, les problèmes s'en vont. Entrons dans la gloire de Dieu, dans la carrière que Dieu nous propose. Et nous, on veut compenser par la chair les blessures. Ça ne marche pas. Ça continue. Saisissons la gloire de Dieu. Comme tout, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 29, quand il dit, mais les temps sont difficiles, que ceux qui ont une femme vivent comme s'ils n'en avaient pas. Tu es marié. On entend dans certains milieux chrétiens, ben, il faut savoir entretenir l'amour par des paroles de douceur, par des invitations au restaurant. C'est écrit où dans la Bible, bien-aimé? C'est la chair. Vous voyez le silence qui s'ensuit là. C'est la chair. On n'est pas contre les restaurants. On n'est pas contre les compliments. On dit tout simplement, ce n'est pas ça qui va faire ton mariage. C'est la gloire de Dieu. Quand vous êtes tous dans la carrière de Christ, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. C'est ce que Paul dit, que ceux qui vivent, qui sont mariés, vivent comme s'ils n'étaient pas. Et on veut régler des choses, ça ne se règle pas parce qu'on veut régler ça à la manière des hommes. Or, Dieu dit, entre dans la carrière que j'ai faite pour toi. C'est ça qui va attirer la gloire. Ça va convertir ta femme, ça va convertir tes enfants, ça va tout changer. Mais toi, tu veux que pour entrer dans la carrière que Dieu arrange d'abord les choses. Non, entre dans la carrière que Dieu te propose. Là où il t'attend pour la prière, vas-y. Si tu attends pour chanter, chante ses louanges. Mais toi, tu veux, avant de chanter ses louanges, que Dieu t'arrange la situation à la maison. Ah non! Parce que Dieu n'a pas attendu ta maison pour être Dieu. Il existait avant ta maison. Il est digne d'être loué. Que ça ne marche pas chez toi ou pas, lui, il est digne d'être loué parce qu'il est tout-puissant. Il existe avant tout ça. Pourquoi tu veux conditionner la louange à Dieu à ta situation? C'est comme ça que beaucoup restent dans le trou parce qu'ils n'entrent pas dans la carrière. Entrent dans le plan de Dieu. Fonctionne dans ce que Dieu attend de toi. Tu verras que les blessures s'en iront. Ton cœur sera guéri. Toi, au lieu d'entrer dans la carrière, tu es en train de polémiquer. On ne m'a pas donné ceci. On ne m'a pas fait grâce de cela. Non, entre dans la carrière. Tu as ce qu'il faut pour avancer. Le Seigneur a dit à Gédéon, c'était la même chose que Gédéon disait, non? Il disait, mais ma famille est la plus petite, blessure. Je suis le plus petit de ma famille. Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Va avec la force que tu as. C'est ce que le Seigneur nous dit. Arrêtons de nous plaindre. On m'avait mal parlé. Il y en a qui sont aussi des spécialistes. Lui-même, il sait que Dieu existe. Il est tout le temps là à dire, ah ben les chrétiens ne sont pas exemplaires, c'est pourquoi moi je ne viens pas. Mais est-ce qu'on t'a demandé de te convertir aux chrétiens? On te demande de te convertir au Dieu créateur des cieux et de la terre. Ah mais ma femme n'est pas exemplaire, elle qui se dit chrétienne. Mais toi-même aussi tu crois en Dieu. Pourquoi tu vas faire dépendre ça de ta femme? Entre dans la carrière. Au lieu de ressasser les mauvaises choses vécues. Bien-aimés, laissons Dieu nous guérir. Entrons dans la carrière du Seigneur. Et une autre chose très importante, c'est Job 5, 18 et puis Osée 6, 1 qu'on va lire. Job 5, 18 et Osée 6, 1. Job 5, 18 et Osée 6, 1.
Job chapitre 5, verset 18. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit.
Voilà ce qui est dit. Il est dit que c'est Dieu qui fait la plaie et lui-même la bande. Et l'autre, c'est quoi? La suite, c'était quoi, pardon?
Il le blesse.
Ah, il blesse et il guérit. Lisons encore Osée 6.1. D'ailleurs, Osée 6.1, c'est presque la clôture de notre prédication, parce qu'on va revenir quand même sur Hébreu 12.1-15. Mais lisons aussi Osée 6.1. C'est déjà presque le mot de la fin. Oui.
Osée 6.1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Amen, amen. Retournons à Dieu parce qu'il a déchiré, il guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que depuis que tu es né, tout ce que tu considères comme injustice, blessure, tout ça, c'est Dieu qui a permis. Il le savait, il voyait, il a laissé faire parce qu'il déchire et il guérit. Il blesse et il bande les plaies. Afin que tu le connaisses comme le Dieu de ta délivrance. Regardez pourquoi Adam a péché. Adam avait tout. Adam avait la gloire de Dieu. Il n'avait aucune maladie, aucun problème. Tout était pour lui, la terre, l'univers entier. Mais vous savez pourquoi il a péché? Il n'a pas connu Dieu comme le Dieu de sa délivrance. Vous savez pourquoi nous on est maintenus dans la foi? Parce qu'on se souvient qu'on était dans les ténèbres. Jésus nous a sortis des ténèbres. Ce souvenir-là nous fait connaître Dieu comme celui qui nous a délivrés de la perdition et nous lui sommes reconnaissants et nous restons dans la foi. Nous restons dans la vérité. Alors qu'Adam, quand il vient au monde, tout est parfait. Adam vient au monde le 50e jour, le 6e jour. Donc Dieu a déjà tout créé avant lui. Lui, il vient tout trouver et le lendemain, c'est le repos. Donc, Adam n'a pas connu les ténèbres. Il a connu tout bien. Et c'est ce qui fait que il a fini par croire que lui-même, il était Dieu. Parce qu'il n'a pas connu la délivrance. Et ces deux passages qu'on vient de lire nous montrent que quand bien même tu n'étais pas encore chrétien, Dieu te connaissait. Tout ce que tu as connu autrefois, et il y a plein d'autres passages qui le disent, hein, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaît. On a des passages qui le disent. Mais ces deux passages nous montrent quoi? Tout ce que tu as connu comme frappe, blessure, injustice, Dieu n'en était pas ignorant. Ça faisait partie de son plan pour te guérir afin que tu le connaisses comme ton sauveur, celui qui te guérit. Bien sûr que tout ce qu'on a subi aussi comme mal dans le passé est dû au péché qu'il y a dans l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui a produit ça, mais Dieu a laissé faire. C'est le péché de l'humanité qui a produit nos blessures, qui a produit le fait qu'on soit déchiré. Mais Dieu, dans sa toute puissance, a laissé faire afin qu'il nous guérisse et qu'on le connaisse comme celui qui guérit. Pourquoi beaucoup demeurent dans les blessures? Parce qu'ils se disent, Dieu, il m'a ignoré, il n'a rien fait, il voyait qu'on me violait, il n'a rien fait, il voyait qu'on me tapait, il n'a rien fait, il voyait que le cambrioleur était entré chez moi, ils ont tué ma mère, il n'a rien fait. Mais Dieu, ça fait partie de son organisation. Il a prévu le salut. Donc aujourd'hui, change ta manière de voir ton passé. Ton passé n'est pas un échec. Ton passé est une construction de gloire. Dieu l'a bâti pour manifester sa guérison. Comme il est écrit, là où le péché a abondé, Dieu a surabondé dans sa grâce afin que sa puissance soit dévoilée comme plus forte que les ténèbres. Plus forte que le mal. Corinne Ten Boom, c'est quelqu'un qui aidait les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'était pas juive. Sa famille était chrétienne et hollandaise. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands prenaient tous les Juifs pour aller les tuer. Et eux, ils cachaient les Juifs chez eux. Ils avaient trouvé une cache, ils cachaient les Juifs chez eux. Et un jour, toujours dans sa volonté d'aider, un espion allemand, il a menti qu'il était juif et qu'il cherchait de l'aide pour s'enfuir. Eux, dans le but d'aider cet homme-là, eh bien, ils ont dévoilé qu'eux, ils cachaient les juifs. Eh bien, on les a attrapés. Là, tu vas dire quoi? Moi qui aide, Dieu permet qu'on m'attrape encore. Mais où est ce Dieu-là? Et puisque vous savez qu'en définitive, toutes les blessures ont pour, accuser qui? Au fond, c'est toujours Dieu. Là, on a parlé des humains, mais au fond de tout ça, en nous, c'est Dieu qu'on condamne. Hein? Et là, vous allez dire quoi? C'est-à-dire que tu fais les choses pour Dieu, pour aider les Juifs, mais c'est à cause de ta bonté qu'on t'attrape. Son père meurt très tôt en prison à cause de ça. Elle et sa sœur envoyées dans les camps de concentration, elles voyaient comment le gardien menait sa sœur. Vous savez, vous avez envie de vous transformer en quelqu'un de 5 mètres pour tuer tous ces gens-là. Parce que quand on touche à ta sœur, devant toi, vous savez combien ça peut déchirer. Qu'on touche peut-être parfois à ton frère, à un homme qui peut résister, mais qu'on touche à une femme, à ta sœur. Elle a vécu tout ça. Et sa sœur a fini comment? Par mourir. Vous imaginez la colère de Corrie ten Boom. Elle-même, elle a vécu la souffrance. Tant de concentration. En hiver, pas de chauffage. Vous dormez parfois à 100 dans un endroit où, qui ne peut contenir que 30 personnes. Pas d'intimité. Et dans les années 70, un journaliste américain lui pose la question, mais Corrie, comment tu as tenu malgré toutes ces souffrances-là? Elle a dit, tu devrais poser la question différemment. Qui c'est qui m'a tenu?
Elle a dit, c'est ça, c'est comme ça que tu dois poser la question. Elle a dit, c'est Jésus qui m'a tenu. Et à travers toutes ces souffrances, Dieu m'a appris que la lumière était plus forte que les ténèbres. Parce que malgré tout ce que je vivais là, ben, elle continuait à évangéliser dans le camp de concentration. Sa foi restait au top. Comment expliquer ça? C'est pourquoi elle a dit, il faut plutôt poser la question différemment. Qui m'a tenu? Moi-même, je ne pouvais pas tenir devant tant d'injustices, tant de souffrances. Mais quelqu'un m'a tenu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est lui qui m'a tenu. Et c'est lui qui est encore vivant aujourd'hui pour nous tenir, pour dire, je suis venu te guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Arrête de te coltiner les fardeaux anciens. Saisis l'avenir avec moi. Corrie ten Boom a dit, à travers tout cela, j'ai appris que la lumière était plus forte que les ténèbres. Parce que le camp de concentration, c'était vraiment les ténèbres. Mais la lumière de Jésus en moi a triomphé. Elle a même fait un groupe des attardés mentaux à qui elle prêchait l'évangile dans ce camp de concentration. Sa foi était toujours au top. Elle a expérimenté le fait que la gloire de Dieu était plus forte que les difficultés de la terre. Si Dieu a permis ton passé, c'était pour te prouver cela, que sa gloire est plus forte que les difficultés de la terre. Ne prends plus ton passé comme un échec, ne prends plus ton passé comme quelque chose qui a raté. Considère que Dieu voulait, a permis ton passé parce qu'il voulait montrer que sa gloire était plus grande que tes souffrances du passé. Vois les choses autrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, saisir la délivrance qui vient du ciel. Du Seigneur, maintenant, délivre-moi. Délivre-moi de ton passé, de mon passé. Maintenant, Seigneur, je veux saisir la délivrance qui vient d'en haut. Voilà. J'essayais de résoudre mes problèmes. Je me rends compte que je m'étais trompé. Mon passé n'était pas un échec. Mon passé était une construction pour aboutir au fait que j'expérimente que la gloire de Dieu est plus forte que les ténèbres. La gloire de Dieu est plus forte que les injustices des humains. La gloire de Dieu, c'est plus que tout cela. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons faire? Rester dans les blessures ou saisir la gloire de Dieu? Saisir la délivrance qui ne vient pas de nous, mais qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Nous devons choisir. Choisissons la délivrance qui vient du ciel. Et en attendant, bien-aimés, même si, en attendant d'expérimenter pleinement cette gloire, qu'est-ce qu'on doit faire? Louer l'Éternel. On dit, Seigneur, j'ai compris que tout était ton plan. Mon passé n'a pas été un échec. Oui, j'ai souffert, mais c'était un plan pour que tu glorifies ton nom. Voilà. Si ma mère est morte, ce n'était pas un échec. C'était dans ton plan pour glorifier ton nom, montrer que tu es plus fort que la mort. Il n'y a pas d'échec, c'est la construction de Dieu. Et maintenant, Seigneur, je sais aussi que tu es le plus grand, le plus grand blessé, le plus grand blessé de toute l'histoire, à tel point qu'on l'appelait, dans Ésaïe 53, homme de douleur. Voilà le titre, un des titres de Jésus. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ésaïe 53, qui peut dire qu'il a souffert plus que le Seigneur? Homme de douleur, voilà son titre. Habitué à la souffrance. Mais il a triomphé de tout ça par la résurrection. Alors il le dit, il nous dit, embarquons dans la barque de la résurrection. Que le passé meure avec Christ à la croix. Et saisissons la résurrection maintenant. La nouvelle vie que Dieu nous propose, la carrière dont Paul parle dans Hébreux 12. Disons comme le psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Louons Dieu, disons Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que mon passé était une bonne chose, parce que ça faisait partie de ta construction. J'ai compris que ta gloire va se manifester plus forte que mes blessures anciennes,
plus forte que les injustices, plus forte que mes défauts naturels, plus forte que les inégalités naturelles qui ont fait que les gens se sont moqués de moi. Ta gloire est plus forte que tout cela. Et je vais l'expérimenter. Et en attendant, je te loue parce que je sais que je vais l'expérimenter. Je te loue à l'avance, par anticipation de ce que tu vas faire. C'est ce que nous devons choisir, bien-aimé. Là, nous allons prier que ceux à qui tu dois pardonner, pardonne. Et reçois aussi, comme ça tu peux recevoir aussi le pardon de Dieu. Et là où tu croyais que c'était une erreur dans ta vie, ton passé, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu que ce n'était pas une erreur. Parce qu'il connaît tout. Il a permis tout ça parce qu'il prévoyait quelque chose de grand pour toi. Sa gloire. Corrigeons. On a écouté la prédication. Dans la prière, corrigeons ce qu'il y a à corriger. Et laissons le Seigneur nous remplir de sa gloire. Au nom de Jésus. Père éternel, nous venons prier afin que tu nous aides à corriger ce que nous devons corriger. Nous te demandons pardon pour avoir considéré plus les blessures, plus les souffrances du passé, au lieu de considérer la délivrance que Christ a remportée pour nous à la croix, au lieu de considérer l'invitation de Christ à entrer dans la gloire, à entrer dans la délivrance, à entrer dans la paix, dans la joie, à entrer dans une nouvelle vie, 2 Corinthiens 5, 17. Au lieu de considérer l'appel de Christ à saisir la carrière nouvelle qui nous offre, une carrière de gloire et de résurrection. Seigneur, on s'est vautré dans le passé inutilement et bêtement, et cela a forgé dans le mauvais sens nos relations avec les autres. On est devenu hyper méfiant, on est devenu susceptible, toujours pensant que les autres nous en veulent. Toujours pensant que les autres font un complot contre nous. Toujours pensant que les autres sont jaloux. Seigneur, on est devenu susceptible. Pardonne-nous tout cela. Et nous voulons que ces blessures cessent, Seigneur. Que nous soyons guéris. Que nos cœurs soient guéris. Que nous soyons heureux pour, comme Khalid, embrasser les gens que nous voyons. Dire « Je t'aime et Dieu t'aime, Seigneur. » Parce que nous sommes bien, Seigneur. Pour pouvoir dire à nos ennemis « Je vous aime et les souffrances que vous m'avez fait endurer, c'est parce que Dieu avait un plan pour moi, Seigneur. » C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Il a dit à ses frères, « Je ne vous en veux pas, malgré tout ce que vous avez fait contre moi. C'est Dieu qui a préparé ces choses parce qu'il voulait m'utiliser comme un instrument pour vous sauver et sauver beaucoup de personnes. Mon passé n'a pas été un échec, mes frères. Oui, peut-être vous avez eu un mauvais cœur, mais pour moi, ça a été une bénédiction parce que Dieu s'est servi de vous pour me rendre parfait, pour faire de moi un premier ministre en Égypte. Aujourd'hui, beaucoup peuvent être sauvés par mon parcours. Oh Seigneur, que nous puissions saisir ces choses, Père éternel. Ouvre notre entendement, Seigneur, notre intelligence, que nous réalisions ces grandes choses qui sont dans ta parole, la vie de Joseph. La proclamation de Joseph, comme quoi ses souffrances étaient une bénédiction, non seulement pour lui, mais pour beaucoup de personnes. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous nous attendons en toi, Seigneur. Nous voulons te demander pardon d'avoir été dans la mauvaise conception des choses. Nous voulons te demander pardon d'avoir mal pensé, Seigneur. Nous venons te demander pardon d'avoir considéré les autres comme nos ennemis. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, d'avoir donné trop d'importance aux humains, alors que ta gloire est répandue, ta gloire est disponible, Seigneur. Nous pouvons faire des choses avec ta gloire. Oh, Seigneur, quand les gens sont venus se plaindre pour les impôts, tu as dit à Pierre, « Moi, je n'ai pas à payer les impôts. Les impôts, c'est aux autres de payer. Moi, je suis le roi des rois, le Fils de Dieu. Tout est à moi. » Mais pour éviter les scandales, Seigneur, tu n'as pas condamné les gens qui ont demandé l'impôt. Tu n'as pas maudit ces gens-là. Tu as sorti l'argent de la bouche d'un poisson, Seigneur. Parce que avec ta gloire, nous n'avons pas besoin de condamner les gens, de les critiquer, de les accuser. Avec ta gloire, nous pouvons produire des choses qui rendent tout le monde heureux. Produire des choses qui donne la paix à tout le monde, qui guérisse, produire des choses qui amènent la félicité. Oh Seigneur, pardonne-nous notre mauvais comportement. Pardon, Seigneur, pardon.